إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue ce soir la lecture et l'explication du poème Al-Ha'iyya sur la croyance des gens de la Sunna et du groupe, écrit par l'imam Al-Hafidh Abu Bakr Abdullah ibn Abi Dawood Al-Sijistani rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans le cours précédent les deux premiers vers de ce poème dans lesquels l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé l'obligation pour le musulman qui souhaite obtenir la réussite et le succès de se cramponner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de s'écarter des voies qui s'y opposent parmi les voies des gens de l'innovation et de l'égarement. Dans les vers suivants que l'on va voir aujourd'hui, il nous a exposé la croyance des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, au sujet de la parole d'Allah. Car la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont confirmés dans les textes du Coran et de la Sunnah. Et entre dans cela le Coran, qui est la parole d'Allah incréée. Il a donc dit, rahimahullah, « وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا بِذَٰلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُ » dit « La parole de notre maître, c'est-à-dire la parole d'Allah, est incréée. C'est en cela qu'ont cru les pieux et ils l'ont proclamé. » Il fait donc partie de la croyance des gens de la sunnah, qui n'est autre que la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que de leurs disciples parmi les tabi'in et ceux qui les ont suivis, que le Coran est la parole d'Allah incréée. Allah subhanahu wa ta'ala l'a réellement prononcé. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à Jibril alayhi salam. Jibril l'a entendu d'Allah et il l'a descendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis à sa communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet au verset 192 à 195 de Surat al-Shu'ara, « وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ » Ce Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ » Et l'esprit digne de confiance est descendu avec cela, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. « عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ » Il est descendu avec cela sur ton cœur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Jibril alayhi salam lui a transmis le Coran provenant d'Allah pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Bilisanin arabiyyin mubin. En une langue arabe très claire. Et ce car la langue arabe est la langue du Coran. Ce verset nous expose donc la chaîne de transmission du Coran. La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à commencer par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, l'ont pris du prophète Muhammad, qui lui l'a pris de Jibril alayhi salam, qui lui l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est donc la parole d'Allah qui a été transmise par Jibril alayhi salam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui à son tour l'a transmis à sa communauté. Et les musulmans n'ont aucun doute à ce sujet quant au fait que le Coran est la parole d'Allah qui a été révélée, qui a été descendue et qui est incréée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Zumar, « Tanzilul kitab min Allah » La descente du livre vient d'Allah. Et elle dit dans le verset suivant, « Inna anzalna ilayka al-kitab bil-haqq » Nous avons fait descendre les livres vers toi en toute vérité. Il a donc très clairement dit que ce livre provient de lui. Puis il l'a décrit comme étant sa parole, comme on le trouve au verset 6 de Surat al-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant du fait que si un polythéiste demande asile de lui accorder, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ afin qu'il entende la parole d'Allah, afin qu'il entende le Coran. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, au verset 15 de Surat al-Fath, يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. Ils veulent changer, altérer la parole d'Allah. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement qualifié son livre comme étant sa parole. Et que c'est lui qui l'a fait descendre, subhanahu wa ta'ala. La parole fait donc partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala auxquels il est obligatoire pour le musulman de croire. Il est obligatoire pour toi d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle comme il veut et dit ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, d'une manière qui sied à sa majesté. De la même manière que ses autres attributs, comme le fait de créer, de donner la vie, de donner la mort, et ainsi de suite parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Jibril alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nuit du voyage nocturne, comme cela est confirmé dans les textes. Et avant cela, il a parlé à Adam alayhi salam. Il parlera aussi au jour de la résurrection, au moment de juger les gens. Il parlera aux croyants au paradis, et eux-mêmes lui parleront. Donc tous ces textes rapportés à ces sujets nous démontrent très clairement que la parole fait partie des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les musulmans à l'époque des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'avaient aucun doute à ce sujet. C'était pour eux une chose évidente. Mais lorsqu'ont commencé à apparaître différents groupes parmi les groupes des gens de l'innovation et de l'égarement, à l'exemple d'Al-Jahmiyyah, les suiveurs de Jahm ibn Safwan, qui ont dit que le Coran est créé, et qui ont renié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également sont apparus après eux Al-Mu'tazila, puis Al-Asha'ira, qui ont parmi leurs croyances le fait que le Coran est écrit sur la tablette préservée, et que Jibril alayhi salam ne l'a pas entendu d'Allah, mais qu'il l'a pris de la tablette préservée, puis l'a descendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci également est une parole fausse et erronée. Car Jibril alayhi salam a entendu le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne l'a pas pris de la tablette préservée. Certes, le Coran est écrit sur la tablette préservée, comme cela est venu très clairement dans Surat al-Buruj. Bal huwa Qur'anum Majid. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, sur une tablette préservée. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Toutefois, Jibril alayhi salam ne l'a pas pris de la tablette préservée comme le prétendent la Sha'ira, mais il l'a pris directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc important pour le musulman d'avoir connaissance de la croyance authentique à ce sujet et également d'avoir connaissance de la fausseté de ses ambiguïtés. Car ces ambiguïtés sont présentes jusqu'à aujourd'hui dans les livres des gens de l'innovation, comme la Sha'ira et autres. Et les gens de la Sunna les ont réfutés, et ont clairement exposé que le Coran est descendu, qu'il provient d'Allah, et qu'il est incréé. Car saisissez bien que le fait de dire que le Coran est créé, cela revient à renier l'attribut de la parole, et à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Et comme l'ont mentionné les gens de science, celui qui ne parle pas ne peut pas être adoré. Médite à ce sujet sur la parole d'Ibrahim alayhi salam, qui dit à son père, comme on le trouve au verset 42 de Surat Maryam, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre, ni voir, ni en rien te profiter? Ceci nous indique que celui qui ne voit pas et qui n'entend pas, c'est un être sans vie, qui ne peut pas être adoré. Et on trouve également au verset 148 de Surat al-A'raf la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit au sujet du peuple de Moussa alayhi salam qui après lui ont pris un veau fait à partir de leur parure un corps qui semblait mugir. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à ce sujet Alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Il ne leur parlait pas car c'était un être sans vie. Et ceci est une preuve que celui qui ne parle pas ne peut pas être adoré, car il est défaillant. Comment pourrait-il adresser des ordres et des interdits s'il ne parle pas? Comment pourrait-il administrer cet univers s'il ne parle pas? Le fait de renier l'attribut de la parole revient à attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala une défaillance, wal'iyadu billah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, concernant ses paroles, comme on le trouve au verset 109 de Surat al-Kahf, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne se soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, au verset 27 de Surat Luqman, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, Allah subhanahu wa ta'ala interdit, Allah subhanahu wa ta'ala administre cet univers. Et ses paroles sont indénombrables. Si les mers étaient d'encre, elles ne suffiraient pas pour écrire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela nous démontre que ceci est un attribut confirmé par les textes. On trouve également, dans un hadith authentique, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit en parlant des polythéistes du peuple de Quraysh, « Certes, les gens de Quraysh m'ont empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. » Il a donc clairement qualifié le Coran comme étant la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc les gens de l'innovation comme les Jahmiyyah et autres ont dit que le Coran est créé. Cela sous-entend qu'il n'est pas la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et étant donné que le Coran est la première source de laquelle on puise notre religion, si celui-ci n'est pas la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comment alors pourrait-il servir d'argument? Voilà donc où veulent mener ceux qui aujourd'hui appellent à faire revivre ces voies innovées. À l'exemple de ce qu'ils appellent la fondation de l'islam de France, qui appelle à faire revivre la voie des Mu'tazila. Ils veulent revivifier cette voie, qui est une voie parmi les voies des gens de l'innovation et de l'égarement. Quel est leur objectif derrière cela? Leur objectif est d'écarter les musulmans du Coran et de la Sunna. Leur objectif et que le musulman en vienne à croire à cette croyance erronée que le Coran est créé, wal'iyadu billah. Ensuite, s'ils arrivent à leur faire accepter cela, ils pourront alors les détourner de ce livre. Car ce qui fait que les musulmans sont attachés au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils ont la ferme conviction que ce livre provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est sa parole et que sa parole est incréée. Donc eux, ils veulent faire revivre et diffuser cette croyance erronée, cette croyance qui relève de la mécréance, afin d'éloigner les musulmans du livre d'Allah. C'est pour cela que les musulmans doivent faire des efforts pour apprendre leurs croyances et être attentifs à ces ruses. Car ceci, ce sont des complots qui sont menés contre l'islam et les musulmans. Beaucoup de gens sont insouciants face à cela. Certains pensent même que parler de ces choses, apprendre cette croyance, exposer aux musulmans le fait que le Coran est la parole d'Allah, c'est une chose qui est inutile. Certains pensent que on ne devrait pas y accorder autant d'importance. Certains pensent même, wal'iyadu billah, que ceci est de la perte de temps. Et il n'y a pas de doute que toutes ces paroles sont des paroles erronées. Ces paroles amènent à la négligence des fondements même de notre religion. Et le musulman ne doit pas faire preuve de laxisme à ce sujet. Et tu n'as qu'à regarder les nombreux livres qu'ont écrits les savants de l'islam depuis les premiers siècles afin d'exposer cette croyance authentique. Comme ces livres sont nombreux, et tu verras dans ceux-ci l'importance qu'ils ont donnée à la réfutation des voies innovées et déviantes, des Jahmiyyah, des Mu'tazila, des Asha'ira et autres parmi les gens de l'innovation. Donc celui qui considère qu'étudier ces choses-là est d'aucune importance, ou que cela est de la perte de temps, ou des paroles inutiles, ou al-iyadu billah, soit c'est un ignorant de la réalité de sa religion, ou alors, il se peut qu'il fasse exprès d'ignorer cela, car il souhaiterait que personne ne réfute les croyances erronées des gens de l'innovation parmi les Jahmiya, les Mu'tazila ou les Sha'ira et autres. C'est pour cela qu'il dit que ce n'est pas d'importance. Peut-être qu'il fait même partie des gens de cette secte. Et c'est pour cela qu'il dit aux gens, ne vous préoccupez pas de ces mises en garde, ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Ces choses-là sont d'une importance secondaire ou d'autres paroles semblables. Beaucoup parmi eux font en réalité partie de ces groupes, parmi les groupes des gens de l'innovation et de l'égarement. C'est pour cela qu'ils appellent au délaissement de ces réfutations. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, il nous dit clairement, dit, la parole de notre maître, c'est-à-dire la parole d'Allah, est incréée. C'est en cela qu'ont cru les pieux, c'est-à-dire, telle était la croyance des pieux et des vertueux parmi les imams de l'islam depuis les premiers siècles, en commençant par les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, puis les tabi'in, et ceux venus après eux, parmi les grands imams, à l'exemple d'Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, rahimahumullahu ta'ala. Tous avaient pour croyance que le Coran est la parole d'Allah incréée. Et j'ai mentionné certaines de leurs paroles dans un cours précédent, lors de l'étude de la croyance des quatre imams tirée du poème Al-Lamiyah. Ensuite, il nous dit, et ils l'ont proclamé. C'est-à-dire que les imams de l'islam, ils ont proclamé cela, ils y ont donné de l'importance. Ils ont accordé une grande importance au fait d'exposer aux musulmans que le Coran est incréé. Ils ne se sont pas tus face à ces idées déviantes, mais ils les ont réfutées. Ils n'ont pas laissé les gens face à ces ambiguïtés sans les clarifier et démontrer leur fausseté. Mais ils ont proclamé la vérité à ce sujet. Certains même se sont fait châtier en raison de cela, se sont fait torturer, à l'exemple de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui a subi une lourde épreuve afin de défendre cette croyance authentique. Et il persistait à dire que le Coran est la parole d'Allah incréée. Si ceci était une question sans importance ou une question d'ordre secondaire, pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, y a-t-il accordé une si grande importance? Au point d'être emprisonné, au point d'être torturé, au point d'être fouetté, au point d'être frappé. Malgré tout, il restait ferme sur cela. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, à part l'imam Ahmed, préservait cette croyance authentique. Et toi, aujourd'hui, tu peux dire en toute tranquillité que le Coran est la parole d'Allah incréée. Tu n'as pas de mal à proclamer cette croyance. Tu es à l'abri de toute nuisance en proclamant cette croyance. Mais rappelle-toi que pour que cette croyance te parvienne, des imams ont subi de lourdes épreuves. Et parmi eux, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous mettre en garde contre une voie parmi les voies déviantes de ceux qui ont soutenu que le Coran est créé. Et c'est le groupe que l'on appelle Al-Waqifa. Ceux qui ont refusé de dire que le Coran est incréé, et qui ne disait pas clairement que le Coran est créé. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit donc: Wala takufil Qur'ani bil waqfi qa'ila kama qala adba'un li jahmin wa azjahu. Et ne sois pas de ceux qui s'abstiennent sur le Coran en disant la même parole que des suiveurs de Jahm qui ont été indulgents. On voit donc à travers la parole de l'auteur que parmi les Jahmiyyah, il y en a qui ont dit clairement que le Coran est créé. Et ceux-là, ce sont les têtes, les leaders des Jahmiyyah. Et parmi eux, il y en a d'autres qui ont dit: je ne dis pas qu'il est créé, mais je ne dis pas qu'il est incréé. Je m'abstiens. Et le fait de s'abstenir à ce sujet, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend en réalité que le Coran est créé. Il est donc obligatoire pour le musulman de proclamer sa croyance très clairement à ce sujet. Si des gens de l'innovation viennent et disent le Coran est créé, tu ne dois pas dire, moi je m'abstiens, je ne dis rien à ce sujet. Car si tu t'abstiens, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en réalité que tu les soutiens. Cela signifie que tu ne t'opposes pas à eux. Cela signifie que tu ne les réfutes pas, que tu ne les contredis pas. Lorsque le faux vient à toi, tu dois t'y opposer. Tu dois le réfuter. Tu dois proclamer la vérité à ce sujet. Et tu ne dois pas te taire. Il n'est donc pas permis de s'abstenir, d'autant plus sur des sujets d'une si grande importance qui sont liés au fondement de la croyance. Donc, cette voie, la voie de ceux que l'on appelle Al-Waqifa, ceux qui s'abstiennent, qui ne désirent ni créer ni incréer, elle revient en réalité à cacher la vérité. Et elle sous-entend de manière indirecte que la voie des Jahmiyyah est une voie authentique et acceptable, étant donné qu'on ne les réfute pas et qu'on ne dit pas clairement que c'est une voie égarée. Et de la même manière, on trouve aujourd'hui, même parmi ceux qui se mettent en avant dans la prédication parmi les francophones, des gens qui prétendent au juste milieu, comme un audio qui m'est parvenu d'un de ces pseudo-prédicateurs de l'Internet, qui prétend trancher entre les salafis et les ash'ari au sujet de la croyance vis-à-vis des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui finit par dire que, finalement, nous ne sommes pas obligés de nous prononcer à ce sujet. Cela n'a pas d'importance, cela n'est pas une priorité. L'essentiel est d'adorer Allah, de lui vouer un culte exclusif. Qu'est-ce qu'il cherche à travers cela? Il cherche en réalité à faire accepter aux musulmans que la croyance d'Asha'ira, qui est une croyance innovée qui s'oppose aux textes clairs du Coran et de la Sunna, il cherche à faire croire et à faire admettre que cette croyance est une croyance acceptable, au même titre que la croyance salafia, la croyance des gens de la Sunna et du groupe. C'est ça qu'il cherche à travers son prêche et ses paroles. De la même manière que les waqifa, auxquels se sont opposés les imams de l'islam, qui disaient « je ne dis pas que le Coran est créé, mais je ne dis pas qu'il est incréé ». Donc à travers cette manière de faire, en réalité, ils secourent le faux, ils le soutiennent. Et ils soutiennent les gens de l'innovation. Le musulman doit donc être attentif à cela et ne pas se laisser berner par ces gens qui viennent avec des paroles douces se faisant passer pour des gens du juste milieu. Ils ne sont pas du juste milieu. Le juste milieu, c'est d'affirmer ce qu'Allah a affirmé et d'affirmer ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. Ce n'est pas de s'abstenir sur ce qui est clair. Ce n'est pas de délaisser les textes clairs du Coran et de la Sunna. Ceci n'est pas le juste milieu. Ceci est la voie de l'égarement, la voie des gens de l'innovation qui se sont égarés et que les savants de l'islam depuis les premiers siècles ont réfuté. Donc celui qui doute quant au fait que le Coran soit créé ou incréé et qui s'abstient, alors celui-ci en réalité c'est un Jahmi. Il fait partie de la secte des Jahmiyyah. Car s'il ne faisait pas partie de cette secte, alors il aurait proclamé et dit très clairement que le Coran est incréé. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il se cache derrière le fait de s'abstenir. Comme beaucoup de gens lors des troubles, beaucoup de gens lors des dissensions, beaucoup de gens lorsque la vérité fait face au faux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont en réalité un penchant pour le faux, alors ils disent « moi je m'abstiens, je ne rentre pas dans ces troubles, je n'ai pas de position ». En disant que tu n'as pas de position, tu es en réalité un soutien aux gens du faux. Le fait de t'abstenir de défendre la vérité, le fait de t'abstenir de réfuter le faux, ton silence est un soutien aux gens du faux. Celui qui a les capacités d'exposer la vérité, il doit le faire. Il ne lui est pas permis de se taire et de dire « moi je m'abstiens ». Et après, ils se font passer pour les gens de la sagesse, les gens qui ne rentrent pas dans les troubles. Ceci n'est pas de la sagesse, ceci est en réalité de la faiblesse et une forme de défense des gens du faux. La sagesse, c'est de défendre la vérité et de réfuter le faux. Telle est la sagesse. Quant au fait de se taire, de laisser le faux se propager, de voir devant toi les gens s'égarer, s'éloigner des savants, s'éloigner de la vérité, s'éloigner du Coran, de la Sunna, s'opposer aux textes clairs du Coran et de la Sunna, ceci ne fait en rien partie de la sagesse. Au contraire. Et dans la plupart des cas, tu verras que ces gens-là, en réalité, ont un penchant pour le faux. Et c'est pour cela qu'ils prétendent s'abstenir. Ils sont parfois plus dangereux que les gens de l'égarement eux-mêmes. Car les gens de l'égarement, ceux qui sont clairs sur leurs croyances innovées, ils le proclament haut et fort. On sait alors qu'ils font partie de tel secte, de tel groupe et ainsi de suite. Mais eux, du fait qu'ils s'abstiennent, certaines personnes pensent qu'ils sont sur la vérité. Certaines personnes pensent qu'ils sont sur la voie de la sunna. C'est pour cela qu'ils sont en réalité plus dangereux. Car les gens se laissent leurrer par leur position erronée. Donc, il ne suffit pas de s'abstenir, mais il est nécessaire de clarifier la vérité, de la proclamer haut et fort, et de proclamer la fausseté de la voix des gens de l'innovation et de l'égarement. D'autant plus, comme on l'a dit, sur des sujets d'une si grande importance qui sont liés au fondement de la croyance. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit très clairement ici que ceux-là, ceux qui se sont abstenus, ce sont des suiveurs de Jahm, des suiveurs de Jahm ibn Safwan, celui auquel s'affilie la secte des Jahmiyyah. Il les a donc qualifiés de suiveurs de Jahm, car s'ils ne le suivaient pas, qu'ils ne faisaient pas partie des Jahmiyyah, ils ne se seraient pas abstenus de réfuter leurs croyances innovées. Et les Jahmiyyah, lorsqu'ils ont vu que les gens n'acceptaient pas leurs croyances et leurs paroles innovées, prétendant que le Coran est créé, ils ont donc utilisé cette ruse, la ruse du fait de s'abstenir, et ce, afin de cacher la fausseté de leurs croyances. Et il qualifie, l'auteur ici, les suiveurs de Jahm qui se sont abstenus comme ayant été indulgents, c'est-à-dire qu'ils ont fait preuve de douceur vis-à-vis du faux. Ils ont fait preuve de laxisme. Ils ont eu un penchant pour le faux, alors ils se sont abstenus de les réfuter. Ensuite, L'auteur, rahimahullah ta'ala, réfute un troisième groupe. Et il dit: وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنَ خَلْقًا قَرَأْتُهُ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّغْضِ يُوضَحُ. Et ne dis pas au sujet du Coran, ma lecture est créée, car la parole d'Allah par les mots est clairement exposée. Ceci est un troisième groupe qui s'est égaré à ce sujet. Le premier groupe, ce sont ceux qui ont dit clairement, le Coran est créé. On a vu la fausseté de leurs paroles. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui se sont abstenus, qui ont dit, je ne dis pas que le Coran est créé, mais je ne dis pas qu'il est incréé. Et on a vu également le danger de cette parole et qu'en réalité, ceci est une manière de soutenir le faux. Et le troisième groupe ici, c'est ceux qui ont dit, ma récitation du Coran est créée. Et ceci, en réalité, c'est une ruse pour en venir à dire que le Coran est créé. Et ici, je vous demanderai de rester bien concentré afin de comprendre la dangerosité de cette parole. Il n'est pas permis que tu dises ma récitation du Coran est créée. Et il n'est pas permis également que tu dises ma récitation du Coran est incréée. Pourquoi? Car tu es obligé de détailler à ce sujet. Si tu dis ma récitation du Coran est créée, alors tu auras soutenu ainsi la voie des Jahmiyyah. Et si tu dis ma récitation du Coran est incréée, tu auras également soutenu leur voie, car tu auras rendu tes actes semblables aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est obligatoire de préciser ce que l'on veut dire en prononçant cette parole. Est-ce que lorsque tu dis ma récitation du Coran, tu vises par cela la prononciation des lettres et le son, ou alors tu vises ce qui est prononcé? Si tu vises ce qui est prononcé, alors il ne fait aucun doute qu'il est incréé, car ce que tu prononces, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu vises par la récitation les mouvements de ta langue et les sons qui en sortent, alors ceci est créé, car ta langue est une créature, ta voix est une créature, ta prononciation est une créature. Tout ceci est créé. Mais ce que tu prononces, c'est la parole d'Allah, qui elle est incréée. Il est donc obligatoire d'être précis à ce sujet. Mais eux, ils ont voulu dire cette parole de manière générale, en disant ma récitation du Coran est créée ou ma récitation du Coran est incréée. Ils ont utilisé cette ruse afin d'en venir à dire que le Coran est créé, wal-iyadu billah. Et c'est pour cela que les gens de la Sunna les ont réfutés en disant As-saut, sautul qari, wal-kalam, kalamul bari. Le son est le son du lecteur et la parole est la parole du créateur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ton son, ta voix, lorsque tu récites le Coran, ceci est ta propre voix qui est créée. Mais ce que tu récites, ces paroles, ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui elles sont incréées. Donc il faut bien faire la distinction entre le son qui sort de ta bouche qui lui est créé et qui peut différer d'une personne à l'autre. Certains ont une belle voix, d'autres ont une voix qui est moins belle et ainsi de suite. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith, embellissez le Coran avec vos voix, c'est-à-dire récitez le Coran d'une belle voix. Il est donc demandé aux musulmans, lorsqu'ils récitent le Coran, d'embellir sa voix. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait écouter le Coran récité d'une belle voix. Il aimait écouter la récitation d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, car Allah, subhanahu wa ta'ala, lui avait donné une belle voix. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'écoutait réciter. Il demandait également, comme cela est rapporté à certains de ses compagnons, de réciter le Coran, comme il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, de réciter le Coran, car il aimait l'écouter récité par autre que lui. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, lui a alors récité le début de Sourate An-Nisa. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait écouter le Coran récité d'une belle voix. Et cette belle voix, c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est une créature. Quant à ce que tu récites, ces versets, ce sont la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, elle, est incréée. Et en réalité, comme l'ont mentionné les gens de science, à la base, il n'était pas nécessaire de rentrer dans ces détails. Le musulman qui a une croyance saine, une croyance authentique, il ne se pose pas ce genre de questions. Mais étant donné que les gens de l'innovation et de l'égarement sont venus avec ces ambiguïtés, avec ces ruses, les savants de la sunna ont été contraints de détailler, d'être précis à ce sujet, et ce, afin de les réfuter. Donc en résumé, les premiers ont clairement dit que le Coran est créé. Les deuxièmes sont ceux que l'on appelle al-waqifa, ceux qui se sont abstenus et qui ont dit, je ne dis pas qu'il est créé, je ne dis pas qu'il est incréé. Et le troisième groupe, ce sont ceux que l'on appelle al-lafdhiyya, ceux qui ont dit ma récitation du Coran est créée ou incréée. Et ces trois voies sont des voies parmi les voies des gens de l'innovation et de l'égarement. Et vous avez écouté, à travers ces brèves explications, la réfutation de ces idées. On va donc s'arrêter là aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on verra dans le prochain cours ce qui concerne la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.